Un nouvel épisode d'Avec Podcast. Salut Claude Boucher.
Salut Marc-André.
Et comme on approche la fin de la saison, comme ça a été le cas en fait même tout le long de la saison, les sujets ne manquent pas, notamment la course aux séries qui implique directement les Cats.
Ouais, avec 15 matchs à jouer au moment où l'on enregistre cette chronique. Si les gens l'écoutent après jeudi, bon, il y aura le match de jeudi soir passé contre les Saguenay de Chicoutimi. Alors évidemment, vous devinez qu'au moment où on l'enregistre, on ne connaît pas le résultat. La situation, au moment où l'on est à l'enregistrement, les Cataractes ont joué 53 matchs. Les Sea Dogs en ont joué 55 avec celui de mercredi contre Charlottetown, qu'ils ont perdu 6-0. Donc, les Cataractes ont deux matchs en main et 4 points d'avance sur les Sea Dogs de Saint-John. Et ça risque d'être des 4 points particulièrement importants puisque dans quelques semaines, au mois de mars, quelque part au mois de mars, il y a une fin de semaine où Saint-John va jouer deux fois contre le Titan d'Acadie Batters.
Oh,
alors,
même,
on s'entend que cette fin de semaine-là, la fin de semaine du jeudi 7 et vendredi 8 mars, pour, et en plus, c'est à Saint-John, ça risque d'être des points que les Sea Dogs vont pouvoir amasser sans trop de problèmes. Par contre, Acadie Batters, c'est meilleur sur la route qu'à domicile, mais ça, c'est un autre point.
Ouais.
La même fin de semaine, dans les jours précédents et suivant ces matchs-là, les Cataractes, eux, vont jouer une fois contre les Huskies de Rouyn-Noranda et deux fois à domicile contre le Drakkar de Baie-Comeau. On s'entend-tu qu'en termes de qualité d'adversaire pour les Sea Dogs et les Cataractes cette fin de semaine-là, c'est le jour et la nuit?
C'est presque pas la même ligue.
Alors, pour les Cataractes, si on regarde ça, c'est sûr que c'est quand même encore pas mal d'avance. C'est dans quoi? 2 ou 3 semaines. Les Cataractes sont mieux d'arriver cette fin de semaine-là avec un 5-6 points d'avance sur les Sea Dogs de Saint-John. Question d'être un petit peu plus sécure, si on peut dire comme ça, parce que cette fin de semaine-là, Saint-John risque de gruger quelques points à l'avance des Cataractes.
Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ça pourrait être les anciens gardiens des Cataractes qui pourraient leur faire mal, au sens où ils sont tous les deux chez les Sea Dogs de Saint-John.
Ben, ouais, tu parles de Michael Denisoff et de Zachary Boutillier, bien sûr, qui portent maintenant les couleurs des Sea Dogs de Saint-John. Ben écoute, ils sont pas tout seuls non plus dans l'équipe. Ils sont pas les seuls responsables des performances, mais ça reste à suivre. En fin de semaine, les Sea Dogs jouent ce vendredi et également lundi, deux matchs à domicile pour Saint-John, pas contre les adversaires les plus faciles, les Wildcats de Moncton, même si ça va coup-ci, coup-ça pour les Wildcats.
Ils ont congédié leur entraîneur il y a quelques semaines.
Hein? Oui, effectivement, c'est une équipe qui joue à peu près autour de 500 et lundi, ben, ils reçoivent les Mooseheads d'Halifax au Harbour Station à Saint-John. Les Cataractes, eux, de leur côté, Chicoutimi ce jeudi. Vendredi à Sherbrooke, le Phoenix, c'est pas une proie facile malgré la défaite de 8-1 contre Drummondville cette semaine. De toute façon, qui sait que qui est-ce que les Voltigeurs ne plantent pas cette année? Il n'y a pas grand monde. Et ça se termine dimanche justement contre les Voltigeurs à Drummondville. Alors, il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup de points disponibles sur la table pour les Cataractes en fin de semaine.
Là, qu'on vienne sur un dossier qui me semble un peu étrange, surtout que ça sort là, rendu à quoi, à 80% de la saison, aux trois quarts ou à peu près de la saison junior majeure. Cette espèce de rumeur qui émane d'un journal suisse qui dit que Alexis Lafrenière pourrait aller s'aligner pour une équipe de la Ligue nationale suisse là-bas, un peu comme l'avait fait d'ailleurs Austin Matthews avant de s'amener en Amérique et d'être repêché par les Maple Leafs de Toronto. Deux choses là-dedans. Premièrement, ça me semble sorti de nulle part. Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment possible?
Ben écoute, si Austin Matthews l'a fait, pourquoi Alexis Lafrenière ne pourrait pas le faire? Ce serait possible, mais la condition première, c'est évidemment que l'Océanique de Rimouski donne sa libération à Alexis Lafrenière. Mais si t'es l'Océanique de Rimouski...
Ben oublie ça, ben oui.
Tu donnes toute ta libération à Alexis Lafrenière quand tu sais que l'année prochaine, si c'est pas cette année, l'équipe pourrait empocher un autre championnat.
Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y aurait à gagner, Lafrenière, à aller là? Je comprends pas le geste.
Ben, peut-être jouer avec des adultes.
Ouais.
Jouer avec peut-être des joueurs meilleurs que ceux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais honnêtement, l'Océanique ne donnera jamais sa libération à Alexis Lafrenière. Non. Et je pense que lui-même n'a pas intérêt à aller jouer du côté de l'Europe, même si Austin Matthews l'a fait. Je pense que... Puis moi, mettons là, que je suis un dépisteur, OK? Il me semble que je voudrais voir Alexis Lafrenière à son apogée ici, avec la pression d'aller chercher un championnat pour son équipe.
Ouais.
Question de voir vraiment, on connaît pas mal le caractère du joueur, c'est sûr. Là, les dépisteurs le suivent depuis plusieurs années. Ils doivent le connaître un peu. Mais le voir dans une situation X avec une équipe positionnée pour faire un bon bout dans les séries l'année prochaine, donc gagner le championnat, je pense que les dépisteurs vont peut-être s'attarder à ça. Et peut-être plus, ils vont peut-être plus voir ce point-là de la personnalité d'Alex Lafrenière à Rimouski, ouais, dans la Ligue junior majeure du Québec, que s'il allait jouer du côté de la Suisse.
Une espèce de test de caractère, effectivement. En tout cas, je trouve cette nouvelle-là un peu bizarre, puis je comprends que Matthews l'avait fait. Me semble que c'est un contexte différent, là, sauf erreur, il n'avait pas vraiment été dans une Ligue junior d'impact, là, disons-le comme ça, Matthews, avant de se déplacer du côté de l'Europe. Mais en tout cas, je trouve ça quand même particulier comme idée à ce moment-ci.
Et tu peux être sûr d'une chose. Si jamais l'Océanic a besoin d'appui dans ce dossier-là, il y a un dénommé Gilles Courteau et la Ligue junior majeure du Québec et les autres équipes de la Ligue qui vont mettre leur poids très, très, très pesant pour qu'Alexis Lafrenière reste à Rimouski. Parce que toutes les équipes vont bénéficier,
ben oui,
d'Alexis Lafrenière à Rimouski. C'est déjà le cas depuis quelques saisons. C'est pas aussi fort que Sidney Crosby dans les deux ans qu'il a joué avec l'Océanique. Non, loin de là. Mais l'année prochaine, avec un Lafrenière à son apogée, à sa dernière année de hockey junior, ça c'est sûr et certain que ce sera sa dernière année, là, ils vont attirer beaucoup, beaucoup de monde dans les arénas de la Ligue junior majeure du Québec.
Est-ce que ça pourrait être une question d'argent? Si tu vas jouer dans la Ligue nationale suisse, peux-tu gagner, je sais pas moi, 1 million, 2 millions, comparativement aux quelques centaines de dollars que tu gagnes junior majeur?
Ben peut-être, je sais pas. Je connais pas les dessous de ce qui s'est tramé entre le groupe qui représente Alexis Lafrenière et le hockey suisse. C'est sûr qu'il y a de l'argent impliqué, c'est sûr et certain. Ouais. Combien, je le sais pas. Mais on peut faire une croix là-dessus. Alexis Lafrenière restera sûrement au Québec la saison prochaine, au grand bonheur des amateurs de hockey du Québec.
Je l'espère, effectivement, parce que sinon, ça créerait un genre de précédent un peu étrange qui ne serait assurément pas bon pour la Ligue.
Puis, veut pas, Bertrand Raymond l'a écrit sur RDS.ca. C'est vrai que vendredi dernier, il y a des gens qui ont bravé le froid et la tempête à Saint-Tite pour venir voir Alexis Lafrenière dans un contexte particulier de match extérieur et ils n'ont pas été déçus par le numéro 11 de l'Océanique. Sauf peut-être si on est partisan des Cataractes. On a été victime du spectacle Alexis Lafrenière vendredi dernier. Mais quand même, faut y revenir, Marc-André, sur la classique hivernale. Oui. Malgré qu'il y ait peut-être un déficit au bout du compte pour les organisateurs des Cataractes, malgré que c'était la deuxième fois qu'on le vivait, la magie de la première fois était plus là nécessairement, mais il y avait quand même de la magie dans l'air du côté de Saint-Tite. C'était le fun vendredi soir et samedi, d'autant plus que les joueurs des Cataractes ont donné probablement une de leurs meilleures performances depuis le début de la saison contre les Remparts de Québec. Écoute, je me sentais comme dans une ambiance de séries éliminatoires au stade à Saint-Tite, dans le froid, nous dans la foule, dans un contexte où pour la job de descripteur, on n'était pas pantoute dans nos pantoufles habituelles,
oui,
dans le froid avec les rondelles qui nous sifflaient à chaque côté des oreilles pendant le match, puis veux pas avec l'ambiance qu'il y avait là, c'était absolument magique. Ben, je lève encore une fois mon chapeau à l'organisation des Cataractes, Roger Lavergne en tête, Michael Allaire qui est le grand Manitou derrière la classique hivernale. Ils ont fait du gros, gros, gros travail dans des conditions pas faciles. Puis ils ont investi temps et argent. Et je retiendrai un titre d'un article de Steve Turcotte,
oui,
publié en fin de semaine dans Nouvelle-Liste. C'est que pour l'organisation des Cataractes en fin de semaine, c'était la fierté avant le fric. Parce que oui, ouais, il y a un petit déficit, ou peut-être moins petit qu'on pense, là, mais il y a un déficit. Mais le plaisir qu'ils ont inculqué aux gens, qu'ils ont donné aux gens qui sont allés à Saint-Tite en fin de semaine, juste pour ça, ça mérite des félicitations.
Et on démontre le savoir-faire une fois de plus là-dedans également. Parle-moi, écoute, j'ai le goût de te poser la question parce que j'ai vu les Remparts se plaindre, notamment sur Twitter, du fait que leur gardien Pagliarulo avait le soleil d'en face à un moment donné pendant le match.
Oui,
c'est difficile période de voir la rondelle. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, ils n'ont pas à se plaindre parce qu'à tout bout de champ, à intervalles réguliers, les deux équipes changeaient de côté.
Okay, en plein milieu.
Blanchette aussi a eu le soleil d'en face, puis ça ne l'a pas empêché de blanchir les Remparts pendant près d'une quarantaine de minutes. Puis le vent, c'était la même affaire. Les deux premières périodes, les deux équipes changeaient régulièrement de côté. En troisième, il n'y avait plus de soleil, fait que tout le monde a gardé son côté pendant la troisième période. Bon, écoute, ils cherchaient peut-être des défaites, mais moi, j'ai remarqué une chose, Marc-André.
Oui.
Les Remparts, samedi après-midi, premièrement, il faut se rappeler que Patrick Roy a jugé bon de ne pas faire pratiquer ses joueurs à l'extérieur dans la semaine précédente.
Il avait ses raisons.
Vidor, parce qu'il faut dire qu'avant le match de samedi, deux jours avant eux, ils recevaient les Huskies au centre Vidéotron. Tu sais, il fallait qu'ils se concentrent sur les Huskies avant les Cataractes. Mais ils sont arrivés là, puis écoute, pendant l'hymne national, j'ai remarqué que les joueurs des Cataractes étaient sur leur ligne bleue et se dandinaient à peu près pas, tandis que ceux des Remparts avaient l'air déjà congelés en début de match. Il y a même Patrick Roy qui sautait sur place, le match n'était même pas commencé. Il n'avait pas l'air prêt à faire face au froid.
Puis il savait depuis longtemps, il aurait pu les préparer, mettons pas cette semaine. Là, tu parlais d'exemple des Huskies. Il aurait pu dire, je sais pas moi, il y a 10 jours, là, j'invente n'importe quoi, mais on va aller patiner sur, je sais pas moi, un étang à Sainte-Foy. Il aurait pu faire ça. Mais...
Ben, je sais pas c'était quoi l'horaire des Remparts avec les études et tout ça, mais peut-être que vendredi matin, vendredi dernier, il aurait peut-être pu les faire pratiquer à l'extérieur. Tu sais, Patrick Roy disait, oui, mais la bande, la patinoire, ça sera pas pareil.
C'est justement.
Sûr. C'est sûr. Mais le froid... T'es aurais habitué. Les joueurs des Cataractes avaient le match de la veille comme expérience, avaient un entraînement comme expérience. Les Cataractes avaient l'air beaucoup plus réchauffés samedi que les joueurs des Remparts pouvaient l'être, et ça a apparu en début de match.
De toute façon, la rondelle ne bondit pas de la même manière, les patins ne coupent pas autant, les bandes sont pas tout à fait fournissent pas la même réaction non
mais
plus.
Mais ça, c'est la même chose pour les deux équipes.
Non, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est rendu là, essaye-le. Ouais. Permets-moi l'expression, mais garrocher une coupe de puck sur la bande, voir où ils aboutissent les rondelles, tu sais, pour le tester, ou en tout cas. Mais bref, sur leur problème, on a gagné. Ceci étant.
Et haut la main à part ça.
Oui, exactement. Une des très bonnes performances de la saison des Cats, effectivement. Ben, on vous souhaite de bons matchs et de bons matchs aux partisans également. Merci aux gens qui ont écouté ce podcast.